Travailleuses, travailleurs, camarades et amis, depuis que le gouvernement ne peut plus lanterner les travailleurs avec l'inversion de la courbe du chômage, il cherche à nous enfumer avec le pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité est devenu l'alpha et l'oméga de toute la politique du gouvernement. La réponse à tout, qu'il s'agisse de lutter contre le chômage, de relancer l'activité ou de restaurer le pouvoir d'achat. Quelle comédie ! Le pacte de responsabilité n'est qu'un nouveau cadeau de 30 milliards au patronat. Et il est à ajouter à la longue liste des allègements de cotisations patronales qui n'ont jamais créé d'emplois et qui n'en créeront pas plus demain. Bon, le gouvernement jure que cette fois, il y aura des contreparties en termes d'emplois. Dans un premier temps, le dit patronat a joué le jeu. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, payant même un peu de sa personne en arborant un pins avec 1 million d'emplois. Mais depuis que Gattaz a laissé échapper le fond de sa pensée aux États-Unis, quand il était avec Hollande dans ce voyage, eh bien le patronat ne joue même plus cette comédie. Il n'y aura pas de contrepartie et le patronat prendra les 30 milliards, un point, c'est tout. Il ne s'engagera sur rien de chiffré. Et en fait, il ne s'engagera sur rien du tout. Au point que même la CFDT, qui est toujours partante pour cautionner les mauvais coups, s'est presque mise en colère. Mais les hypocrites dans cette affaire sont bien du côté du gouvernement. Hollande et Hérault savent à quoi s'en tenir depuis le début. Ils savent que dans cette période de crise, le grand patronat licencie à tour de bras et qu'ils n'envisagent pas une seconde d'embaucher. Quant à les contraindre à embaucher, le gouvernement lui-même ne l'imagine pas une seconde. Sa politique, elle est à l'exact opposé. Les patrons disent leurs conditions et les patrons disent leurs conditions et le gouvernement obtempère. Les patrons ont demandé plus de flexibilité. Ils l'ont obtenu. Ils ont voulu un crédit d'impôt compétitivité, ils l'ont eu. Ils ont voulu baisser les droits à la retraite des travailleurs, Hollande l'a fait, en aggravant la réforme Sarkozy. Le patronat a demandé que l'État réduise ses dépenses publiques pour pouvoir baisser encore les impôts pesant sur les plus riches, c'est prévu. Hollande et Hérault sont les hommes à tout faire du patronat. Ils sont à leur service et ils ne conçoivent pas d'autre politique que de lui servir la soupe. Et il ne faut pas s'en étonner. Tous ceux qui gouvernent, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont été choisis et sélectionnés pour leur dévouement au système capitaliste et pour leur fidélité à la bourgeoisie. Leur priorité, ce sont les affaires de la bourgeoisie, ses profits, sa compétitivité. Quant aux travailleurs ou aux chômeurs, ils sont priés de patienter le temps que l'économie aille mieux et que les patrons aient besoin à nouveau de bras à exploiter. Mais combien d'années faudra-t-il encore attendre ? Pour la caste politique, les travailleurs ne sont que des soutiens de l'économie, sommés de s'adapter et d'accepter leur sort d'exploité. Il n'y a aucune pitié, aucune mesure favorable à attendre de ces gens-là. Même au plus fort du développement du capitalisme, alors que les travailleurs étaient à la base de la production, des progrès, de l'enrichissement général, les travailleurs n'en ont eu que des miettes. Mais depuis que l'économie mondiale est entrée dans le marasme, la bourgeoisie préserve ses privilèges au prix d'une exploitation de plus en plus féroce, au prix du chômage de masse et de l'appauvrissement général des travailleurs. Et cette bataille pour l'emploi, c'est le grand alibi pour imposer des reculs inédits aux travailleurs et pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement dans les caisses publiques pour augmenter ses profits. Et pendant qu'ils nous joueront cette comédie du pacte de responsabilité, les lettres de licenciement tomberont pour les travailleurs de Goodyear, pour ceux du transporteur Maury Ducrot, pour les salariés de la Redoute. Alors même que Goodyear, par exemple, a fait des bénéfices, alors même que le groupe Pinault, qui vient de vendre la Redoute pour sous-traiter les licenciements, prospère. Le gouvernement est complice des licencieurs et il leur sert la soupe. Loin de combattre le chômage, il le laisse exploser, au point que plus de 5 millions de femmes et d'hommes sont aujourd'hui privés d'emploi, livrés au petit boulot, à la débrouille individuelle. Eh bien, il faut que les travailleurs affirment qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils rejettent cette politique pro-patronale. Le gouvernement nous rabâche que sa politique, favorable donc au patronat, est bonne pour tout le pays, que tout le monde demain en profitera. Mais une poignée de riches parasites ne fait pas un pays. L'écrasante majorité de la population est composée de travailleurs, de leurs familles, qu'ils soient au travail, au chômage ou à la retraite. Et ce sont eux qui sont indispensables au fonctionnement de l'économie. Sans leurs bras, sans leur cerveau, comment la société tournerait-elle? Les forces vives de la société, c'est eux. C'est pourquoi les travailleurs doivent relever la tête et affirmer contre le patronat et le gouvernement leurs revendications et leurs exigences. La cure d'austérité que le gouvernement est en train de nous concocter fait partie du même ensemble, du même plan d'attaque contre les travailleurs. Le gouvernement a promis de faire 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques d'ici 2017. Pour trouver ces dizaines de milliards, le gouvernement aura l'embarras du choix parce que les propositions de coupes drastiques fusent de tous les côtés. Évidemment, le gouvernement garde le secret sur les sales coups qu'il prépare. Mais ce qui est sûr, c'est que ce seront les classes populaires qui paieront. Car le gouvernement ne touchera pas aux dépenses publiques faites en faveur du patronat. Il ne touchera pas aux 50 milliards que l'État verse annuellement en intérêt de la dette aux banquiers. Il ne touchera pas aux milliards versés à Dassault au titre de l'achat de Rafale et autres gadgets militaires. L'État continuera de service de vache à lait aux grands groupes capitalistes. En revanche, il touchera à l'argent des communes, des départements, des régions, et il demandera à tous les ministères de serrer la vis. Il imposera des restrictions aux hôpitaux, à l'éducation nationale. Et cela sonnera la fin aussi de certaines aides et de certaines subventions aux associations. Et tout ce que les services publics n'assureront plus, eh bien il faudra le payer, en passant par des entreprises privées. Alors pour les travailleurs, il ne s'agira pas d'économie, mais ce seront des sacrifices supplémentaires. Le gouvernement s'attaque ainsi aux salaires et aux droits des travailleurs, alors que les capitalistes et la bourgeoisie regorgent d'argent. Alors qu'à la Bourse de Paris, le CAC 40 a augmenté de 17% en 2013, et que des centaines de milliards affluent à nouveau sur les marchés spéculatifs. Alors ce gouvernement est un ennemi des travailleurs, et il faut le combattre avec la même détermination que l'on mettrait à combattre un gouvernement de droite. Oui, la lutte de classe existe, mais pour le moment, il n'y a que la bourgeoisie qui l'amène. Et si les travailleurs ne l'amènent pas, c'est à cause de leur direction. Les grands partis de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste, ont une responsabilité majeure et ancienne dans la démobilisation des travailleurs. Cela fait bien longtemps que le Parti socialiste s'est transformé en gestionnaire loyal de la bourgeoisie, Marie l'a dit. Mais la direction du Parti communiste a fini, elle aussi, par s'intégrer dans les institutions de la bourgeoisie et à tourner le dos aux perspectives révolutionnaires. Le Parti communiste est resté longtemps loin du pouvoir. Né en 1921, ce n'est qu'au lendemain de la guerre, en 1945, qu'il est entré au gouvernement. Il y est resté 2 ans, et il n'y est revenu qu'en 1981, avec Mitterrand. Le Parti communiste a donc vécu le plus clair de son temps dans l'opposition. Mais même dans l'opposition, le Parti communiste a inculqué l'idée que la raison d'être de l'activité militante, c'était de gagner des voix, de gagner les élections, de gagner des places dans les institutions. Oh, dans l'opposition, le Parti communiste a critiqué, il a dénoncé, il en a appelé à des manifestations, aux mouvements sociaux. Mais ce n'était pas, et ce n'est plus, dans la perspective que ces luttes changent le cours des choses. C'était toujours pour renforcer la gauche gouvernementale et pour accompagner son retour au pouvoir. C'était, et c'est encore aujourd'hui, les luttes étaient et sont encore aujourd'hui l'accessoire de leur électoralisme. Et on a vu de quoi la gauche au pouvoir, même flanquée du Parti communiste, était capable. Avec Mitterrand d'abord, avec Jospin ensuite et maintenant avec Hollande, on sait qu'elle est capable de justifier l'injustifiable pour faire la politique que le patronat lui demande. Combien de fois les ministres communistes se sont-ils retrouvés à prêcher la patience aux travailleurs, à justifier la rigueur salariale, les reculs des services publics, les privatisations? Combien d'ouvriers, influencés par le Parti communiste, se sont alors sentis trahis? Et combien de militants ont été démoralisés et ont même fini par abandonner toute activité militante? Aujourd'hui encore, sans être au gouvernement, le PC refuse de se placer dans l'opposition. Il continue de faire croire que le gouvernement pourrait encore redresser la barre. Et pour cause, pour sauver ses places dans les municipalités, le Parti communiste fait liste commune avec le Parti socialiste dans de nombreuses villes. Alors, ce ne sont pas les travailleurs qui se détournent du Parti communiste. C'est la direction du Parti communiste qui tourne aujourd'hui le dos aux travailleurs en refusant de mener le combat contre le gouvernement prétendument socialiste. À la fondation du Parti communiste, il n'avait, à sa fondation donc, le Parti communiste n'avait pas seulement pour perspective de réformer la société d'exploitation et d'en limiter ses méfaits. C'était de supprimer l'exploitation. C'était la perspective de renverser la société capitaliste et d'enlever à la bourgeoisie le pouvoir qu'elle a sur l'économie et son droit de mettre la société en coupe réglée. Eh bien, c'est avec toute cette perspective qu'il faut renouer aujourd'hui et avec tous les combats qui y mènent, les petits comme les grands. Pour mener ces combats et aller jusqu'au bout, il ne faut pas compter sur les grandes centrales syndicales. Sans parler de la CFDT, qui se prépare à faire passer la pilule du pacte de responsabilité auprès des travailleurs, comme elle l'a fait avec l'accord national interprofessionnel, que font la CGT et Force ouvrière pour préparer les travailleurs aux luttes indispensables? Nous savons, parce que nous sommes militants, que toutes ces luttes ne se décrètent pas. Mais on peut et on doit dire aux travailleurs que la seule issue pour le monde du travail, c'est de lutter. Et c'est justement ce que ne font pas les dirigeants syndicaux. Bien heureusement, les organisations syndicales, ce ne sont pas seulement des directions coupées du monde du travail, ce ne sont pas seulement des appareils préservant surtout leur existence, ce sont essentiellement les militants qui, dans leur entreprise, agissent comme ils le peuvent pour leur classe. Et bien des choses dépendent de ces militants, de leur état d'esprit. Ceux qui s'interrogent sur la politique de leur direction et qui cherchent le pourquoi de la désaffection des travailleurs à l'égard des syndicats, doivent comprendre la responsabilité des partis de gauche dans cette démorale, dans cette démobilisation. Et surtout, il faut qu'ils surmontent ce qui fut la plaie des méthodes staliniennes, c'est-à-dire le fait de faire les choses sans les travailleurs, et même de se méfier d'eux. Les militants doivent reprendre confiance dans la classe ouvrière, s'appuyer sur leurs camarades de travail et sur les plus combatifs. Car lorsque les travailleurs décideront de se lancer dans le combat, eh bien ils se battront avec la même détermination que l'on a vue, par exemple, chez les travailleurs de PSA d'Aulnay ou chez les ouvriers de Continental. Les directions syndicales, les partis qui visent l'électorat ouvrier, le Parti communiste ou le Front de gauche, les altermondialistes de diverses obédiences, présentent tous le protectionnisme comme un rempart contre la mondialisation qu'ils présentent comme un ennemi. Ils se veulent les champions de l'industrie nationale. Ils s'arc-boutent derrière les frontières des États, alors même qu'ils sont dépassés, y compris dans le cadre du capitalisme. Mais en quoi les frontières peuvent-elles protéger les travailleurs de la domination du patronat et de l'exploitation ? En quoi les frontières vont-elles empêcher les patrons d'écraser les salaires, d'imposer des horaires insupportables? Les capitalistes sont les maîtres de l'économie, que les frontières soient ouvertes ou qu'elles soient fermées. Et le problème, ce n'est pas de remettre plus de frontières, mais c'est de combattre ces capitalistes. La classe ouvrière doit donc renouer avec les perspectives ouvertes par le manifeste communiste et avec l'internationalisme, qui lui est indissociable. Il y a presque unanimité dans la classe politique pour dire que l'immigration est un problème ou qu'il y a trop d'immigrés. Mais dans les années d'après-guerre, dans les années 1960-1970, l'immigration n'était pas un problème. C'était au contraire pour les dirigeants patronaux, pour les gouvernants, la solution pour construire le pays, pour faire tourner les usines. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ce sont les travailleurs immigrés qui se chargent des tâches les plus ingrates, les plus mal payés. Alors il y a de quoi être révolté quand on entend qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que les immigrés ne viennent pas pour être des assistés. Ils viennent pour travailler, pour gagner un peu d'argent, pour gagner de quoi envoyer à leur famille. Ils ne viennent pas pour prendre un logement HLM à un autre. Ils viennent pour le construire. Et il ne s'agit pas d'ailleurs d'accueillir la misère, mais de la combattre. Et on ne la combat pas en chassant plus miséreux que soi, mais en combattant les responsables de ce système capitaliste où l'enrichissement des uns est basé sur l'appauvrissement de tous les autres. Le capitalisme est plus révoltant que jamais, parce que la richesse est incomparablement plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle et demi. Au début du capitalisme, l'exploitation féroce de la bourgeoisie avait de quoi révolter. Mais les richesses issues de cette exploitation n'étaient encore qu'un îlot de prospérité dans un océan de misère paysanne. Aujourd'hui, la bourgeoisie baigne dans un océan de richesses. Mais ces richesses, au lieu d'être un avantage pour la société, elles deviennent un frein, un facteur de spéculation, de crise, de chômage, de misère. Un chiffre résume la folie de ce système capitaliste. Les 85 premières fortunes du monde détiennent l'équivalent de ce que possèdent les 3,5 milliards les plus pauvres. Ce décalage extravagant entre l'étalage de richesses de la classe exploiteuse, ses jets privés, ses hôtels particuliers, ses produits de luxe, et la pauvreté, si ce n'est le dénuement d'une partie de l'humanité, ne peut pas perdurer. Sous prétexte que ces messieurs ont le droit d'investir leur fortune où ils le veulent, y compris de les jouer au casino de la spéculation, il faudrait accepter le gâchis effroyable des possibilités productives. En dépit du progrès scientifique et technique et de l'accroissement fantastique des moyens de production, il faudrait s'interdire de maîtriser les conséquences de l'activité humaine sur la nature. Il faudrait continuer de condamner une partie de la planète au sous-développement, à la barbarie et aux guerres. Les contradictions du capitalisme ont pris des proportions inédites et la déchéance dans laquelle nous pousse la domination de la bourgeoisie menace d'entraîner toute la société dans sa chute. Regardez l'état de notre monde. Le bras de fer qui a éclaté au grand jour en Ukraine entre la Russie d'un côté et les États-Unis et l'Europe de l'autre menace de dégénérer en affrontements sanglants et en guerre civile comme la Yougoslavie l'a connu. La Syrie s'est installé dans une guerre atroce. Au Moyen-Orient, on se satisfait d'une paix armée entre Israël et l'Iran. Et on se satisfait de ce que les Palestiniens sont condamnés à mourir à petit feu. La multiplication des zones sous l'emprise des forces moyenâgeuses, puisant leur inspiration dans le fanatisme intégriste, sème la terreur en Afghanistan, mais aussi au Pakistan, en Afrique. Le génocide rwandais n'a pas mis fin aux atrocités. Elles se sont poursuivies au Congo. Et elle menace de s'étendre aujourd'hui en Centrafrique et au Mali, où l'intervention de l'armée française ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Le pourrissement dans lequel s'enfonce une partie de la planète ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nous. Le fait même que l'armée française soit engagée dans ces guerres impérialistes le montre d'ailleurs. Mais les conséquences pour nous sont aussi à un autre niveau. Le recul social ne se manifeste pas que dans le recul de la condition ouvrière. Il se manifeste aussi dans le foisonnement des idées réactionnaires. Car la misère et le chômage vont de pair avec le chacun pour soi, avec le délitement moral de la société. La remontée des idées racistes, l'emprise des idées religieuses, du sexisme, de l'antisémitisme et des communautarismes fleurit sur le terreau d'un capitalisme qui dégénère. Et si nous faisons le choix de défendre une politique qui se place exclusivement sur le terrain des intérêts de la classe ouvrière, c'est qu'elle est la seule qui peut s'attaquer à la racine même de la société capitaliste. La classe ouvrière est la seule force porteuse d'autres valeurs que celles du nationalisme et de l'individualisme. Elle est la seule classe capable d'empêcher la société de prendre un cours réactionnaire. Oui, les travailleurs sont la seule force progressiste de notre temps. Mais pour emmener la société vers une société vraiment humaine, les exploités doivent reprendre le combat pour leurs intérêts de classe et commencer par affronter la classe capitaliste. La gravité de la crise actuelle, les menaces qu'elle fait peser sur la classe ouvrière et sur toute la société, la déconsidération du gouvernement de gauche feront mûrir les consciences. Personne ne peut deviner à quel rythme cette maturation se fera et à quel moment se produira ce basculement qui fera agir des millions et des millions de travailleurs refusant d'être lanternés alors que leur situation se dégrade. Mais dans les mois à venir, les travailleurs auront à s'exprimer, dans les élections municipales d'abord, puis pour les élections des députés au Parlement européen. Eh bien, il faut que les travailleurs se saisissent de ces occasions pour montrer qu'il existe dans le pays une opposition ouvrière au gouvernement, pour montrer qu'il y a des travailleurs conscients de leurs intérêts et des luttes à mener. C'est pourquoi Lutte ouvrière présentera des candidats aux municipales dans de nombreuses villes et que nous présenterons, bien sûr, une liste à Clermont-Ferrand. Et nous présenterons aussi des candidats aux élections européennes dans toutes les circonscriptions. Ces élections sont la première occasion qui sera donnée aux travailleurs de dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. L'occasion pour exprimer leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement et affirmer leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation. Patienter, espérer une hypothétique reprise, voilà tout ce qu'offre le gouvernement aux travailleurs. Alors qu'il y a urgence, alors qu'à cause du chômage, des millions de travailleurs sont menacés dans leur existence même. Il faut des mesures radicales et contraignantes. Sauf à interdire aux grands groupes de licenciés, on n'arrêtera pas la montée du chômage. Sauf à se mettre en travers des intérêts du grand patronat, on ne stoppera pas l'hémorragie. Il n'y a pas de travail à donner à tous, répondront les patrons. Eh bien qu'on impose qu'il soit réparti entre tous sans diminution de salaire. Et pour résorber le chômage, parce qu'il y a plus de 5 millions de femmes et d'hommes privés d'emploi, eh bien il faut des embauches. Partout le personnel manque, partout la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout les salariés ne peuvent plus poser leurs congés. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux où tous les 6 mois, un travailleur en remplace un autre mis au chômage. Oui, cela coûtera au patronat. Mais les grands groupes ont de quoi payer, et à défaut, qu'ils puisent dans les fortunes accumulées par les grands actionnaires. Quant aux difficultés des plus petites entreprises, c'est à celles plus riches d'y parer. Et aux banques. L'État a aidé les banques pendant cette crise, à coût de centaines de milliards, en nous expliquant qu'elles étaient indispensables pour financer l'économie. Eh bien qu'elles le fassent donc aujourd'hui. Mais les travailleurs, eux, n'ont pas à être sacrifiés pour les entreprises qui sont éclopées de ce système capitaliste. Et ce n'est irréaliste que si l'on considère que les fortunes de la bourgeoisie sont intouchables. Mais dans une société normalement constituée, l'évidence imposerait qu'en temps de crise, l'argent serve d'abord à sauver les emplois, à sauver ce qu'il y a de plus essentiel et de plus vital à la population. Et pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1 700 € net. Et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances. Et ce, pour tous les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite et pour les minima sociaux. Ce sont là des revendications élémentaires. À travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer le droit à la vie. Mais même cela, c'est trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours ? Il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires, c'est impossible, le pays a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. Pour savoir la vérité, les travailleurs n'ont pas d'autre solution que d'aller mettre leur nez eux-mêmes dans les comptes, d'éplucher toute la comptabilité. Et ce serait aussi la seule façon de mettre en lumière les 1 001 canaux de l'exploitation et ce mécanisme de cette immense pompe aspirante que constitue le capitalisme et qui fait que 85 plus riches du monde possèdent l'équivalent de 3,5 milliards des plus pauvres. Oui, le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. Eh bien, la levée de ce secret doit faire partie du programme des travailleurs. Bien sûr, la mobilisation ne se décrète pas. Il ne dépend pas d'un petit groupe, ni d'aucun parti d'ailleurs, de changer la société. Les changements sociaux ont toujours été provoqués par l'intervention des masses sur la scène politique, par l'évolution de l'état d'esprit de millions de travailleurs. Quel sera-t-il demain? Personne ne peut le prédire. La situation est mouvante. Elle peut changer dans un sens comme dans un autre. Mais si, à notre petite échelle, nous pouvons contribuer à faire vivre ou à conforter cette conscience de classe, ne serait-ce que dans une petite fraction de la classe ouvrière, il faut le faire. Parce que c'est cette conscience qui peut, dans une période de remontée des luttes, transformer les travailleurs isolés en une classe sociale agissante, en une force politique capable de peser. C'est pourquoi il faut que la classe ouvrière se manifeste dans toutes les occasions de la vie politique et qu'elle mette en avant son programme, les valeurs de son camp, sa propre politique. Et il faut qu'elle le fasse aussi dans toutes les élections. Les travailleurs, les chômeurs, les retraités, écœurés par la politique du gouvernement, doivent se saisir des élections municipales, puis des européennes, pour dire leur colère et leur opposition au gouvernement. Les classes populaires ne peuvent évidemment pas dire leur opposition en votant pour les listes de droite. Ce seront des votes qui seront comptabilisés comme des votes favorables au retour au pouvoir des amis de Sarkozy, si ce n'est pas d'ailleurs de Sarkozy en personne. Ce serait chercher à remplacer la gauche par la droite, on reviendrait à redemander des coups. Quant aux travailleurs qui sont tentés par le Front National, ils se trompent lourdement. Depuis quelques années, le Front National a compris que son électorat réactionnaire, composé d'anciens de l'Algérie française, de racistes ou d'intégristes catholiques, ne lui permettrait pas d'accéder à la mangeoire. Alors, la dynastie Le Pen s'est diversifiée. La famille, millionnaire, fait désormais dans l'indignation sociale. Elle dénonce le chômage, les bas salaires, les petites retraites, les petits commerçants écrasés. Toutes choses qui font croire à ceux qui ne savent plus à quel saint ou à quel diable se vouer que Marine Le Pen défend les ouvriers. Mais elle fait comme tous les autres. Qui ne déplore pas le chômage? Qui ne dénonce pas les impôts qui pèsent sur les plus modestes? Tout le monde sait le faire, même et surtout ceux qui sont responsables de la situation. Verser des larmes de crocodile est à la portée de tout le monde. Faire de belles promesses est à la portée de tous les démagogues. Mais encore une fois, dans cette société, et surtout dans cette période de crise, tous ceux qui ne sont pas déterminés à faire payer la bourgeoisie et en s'en prendre au profit des grands groupes capitalistes et aux exploiteurs se préparent à gouverner contre les travailleurs. D'ailleurs, Le Pen ne s'en cache pas. Quand elle veut ce qu'elle veut faire payer, elle le dit très clairement, ce sont les immigrés, c'est-à-dire un grand nombre de travailleurs, un grand nombre d'entre nous. Ceux parmi les exploités qui envisagent de voter pour le Front National votent contre eux-mêmes. Car leur vote sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les chômeurs, d'une politique plus dure contre les syndicats, plus dure contre les travailleurs qui veulent s'organiser et se défendre. Bien sûr, il faut rejeter la politique de Hollande, mais il faut que cette dénonciation vienne des travailleurs et qu'elle se fasse sur la base de leurs intérêts. La droite et l'extrême droite n'ont pas le monopole de l'opposition. Les travailleurs peuvent faire entendre leur camp et leurs intérêts de classe en votant pour les listes de lutte ouvrière. Quant à la gauche de la gauche, au Parti communiste ou à Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique qu'une autre politique est possible, mais dans le cadre de cet ordre social injuste, eh bien, ils ne méritent pas la confiance des travailleurs. Ils ont tous fait voter Hollande, et ils l'ont cautionné. Et encore aujourd'hui, ils nous expliquent qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait se débarrasser de Sarkozy. Mais qu'avons-nous au pouvoir aujourd'hui, si ce n'est la politique de Sarkozy ? Tous les partis qui alternent au pouvoir font miroiter des mille et des cents au moment des campagnes électorales. Pour une fois élus, piétiner leurs promesses. Au pouvoir, ils s'usent et ils finissent par décourager leur propre électorat, ce qui leur vaut de perdre les élections suivantes. Puis dans l'opposition, c'est reparti pour un tour. Ils renouvellent les mêmes promesses, véhiculent les mêmes illusions. C'est un éternel recommencement. Et c'est à ce cirque-là que participe aussi le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, les travailleurs doivent dire qu'ils ne sont pas dupes. Il n'y a aucune raison qu'ils choisissent entre les uns ou les autres. Il n'y en a pas de meilleur que d'autres. La conscience des travailleurs commence par là, par la conscience d'avoir à rejeter tous les serviteurs de la bourgeoisie, du Parti socialiste jusqu'au Front national, en passant par le centre et par la droite. C'est sur ce constat qu'ils font tous la même politique, celle des riches, que certains électeurs s'abstiennent. Ils se ressemblent tous, disent-ils. Et ils n'ont pas tort. Oui, tous ces politiciens ont été formés et sélectionnés pour leur fidélité à la bourgeoisie et au système. Du Parti socialiste au FN jusqu'au Parti de gauche, aucun n'imagine la société sans la propriété privée des entreprises, sans les lois du marché, sans la loi du profit, sans la concurrence, sans la bourgeoisie. Et si la direction du Parti communiste n'ose pas l'avouer clairement, toute son action politique montre qu'elle pense d'eux-mêmes. Le capitalisme est pour eux un horizon indépassable. Ils font mine de s'opposer à telle ou telle de ses conséquences, et ils ont chacun leur recette pour relancer les profits. Leurs convictions, ils ont leurs convictions aussi. Mais arrivés au pouvoir, ils font la politique que la bourgeoisie leur demande. Alors, oui, ceux qui pensent que les politiciens qui se succèdent au pouvoir sont là pour lanterner les travailleurs ont raison. Mais s'ils s'abstiennent, alors qu'ils ont la possibilité de dénoncer cela par leur vote, et il est possible de le faire en votant justement pour les listes de lutte ouvrière, eh bien ils se bâillonnent, ils s'auto-censurent. En s'interdisant de les dénoncer, ils font le jeu de leurs ennemis. Dans combien de pays les travailleurs essayent de construire leurs syndicats et leurs partis et ne le peuvent pas parce que c'est la dictature? Dans combien de pays les électeurs n'ont pas le choix que de voter pour un personnel politique choisi, soumis au pouvoir en place? Ici, ce n'est pas le cas. Alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand les travailleurs ont la possibilité de rejeter sans ambiguïté leurs ennemis politiques et affirmer leur propre politique, ils doivent le faire. Certains croient diminuer la portée du vote pour nos listes en le qualifiant de vote protestataire. Eh bien oui, c'est un vote protestataire. Et c'est un vote utile, car il est plus qu'urgent de dire que ça suffit et de montrer que l'on ne se résigne pas au chômage, à la perte du pouvoir d'achat et à l'exploitation. Non, ce n'est pas un vote défouloir, comme certains le disent avec mépris. C'est un vote préparatoire aux luttes de demain. Voter pour les listes de lutte ouvrière permettra aux classes populaires de montrer qu'il existe dans le pays une opposition ouvrière au gouvernement. Ce vote montrera qu'il y a des travailleurs conscients de leurs intérêts et des luttes à mener. Au-delà de la dénonciation de la politique d'un gouvernement, ce vote montrera que l'on rejette un ordre social dans lequel les ouvriers passent leur vie à construire des immeubles ou des automobiles sans pouvoir se loger dignement ou s'acheter une voiture autrement qu'en s'endettant pour des années. Que l'on rejette cet ordre social qui use les uns au boulot quand les autres sont condamnés au chômage. Que l'on rejette cet ordre inhumain qui force les salariés de Veolia ou d'EDF à couper l'eau, le gaz ou l'électricité aux démunis et qui les traîne en justice pour ne pas avoir obtempéré. Que l'on rejette cet ordre injuste qui permet à ceux qui ont volé ou dilapidé des millions d'échapper à la justice quand une caissière de supermarché est licenciée pour avoir récupéré un bon de promotion. Que l'on rejette cet ordre inégalitaire qui permet aux plus riches d'échapper au fisc quand les retraités les plus modestes sont étranglés par les hausses d'impôts. Que l'on rejette tout cet ordre capitaliste dans son ensemble qui est basé sur l'exploitation, sur le vol légal des travailleurs et qui fait que l'enrichissement d'une minorité dépend de l'appauvrissement de tous les autres. Les privilèges des grandes fortunes coûtent cher à la société. Mais le fonctionnement erratique, irrationnel de cette économie qui va de crise en crise coûte bien plus cher encore à l'humanité. Comment accepter qu'en quelques mois de crise, on détruise les richesses, les moyens de production, les usines que les travailleurs ont mis des générations à construire? Il n'y a pas d'économie plus folle. Alors, au-delà de la politique politicienne, ces élections permettent aux travailleurs, aux chômeurs et à la jeunesse, consciente du sort que le capitalisme lui réserve, de faire un geste politique sans ambiguïté. Elles permettent d'affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit tout, qui fait vivre la société et qui représente la seule voie pour que la société reparte de l'avant. Alors votez et faites voter pour les listes de lutte ouvrière.